Il est 7h.
On nous dit que les stocks sont pas énormes. Là, ça se compte en jours de stock pour ce type de médicament. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Pas assez de curare, pas assez de morphine, pénurie de médicaments en réanimation. 9 grands hôpitaux européens lancent un appel à l'aide. Les hôpitaux français où on en vient à utiliser des masques de snorkeling Décathlon pour pallier le manque de matériel. Nous serons en direct avec un chirurgien de l'hôpital Henri Mondor. La préfecture de Seine-et-Marne appelle les réfugiés à la rescousse pour venir prêter main forte aux agriculteurs et ils sont heureux de répondre présent.
Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. Le gouvernement français m'a aidé. Je veux travailler pour rendre l'appareil.
L'enfer du confinement pour les enfants victimes de parents violents. Enquête Europe 1 de Salomé Legrand à suivre dans ce journal. Et puis, c'était le pape de Marseille, pape Diouf, qui a dirigé l'OM pendant 4 ans et mort des suites du Covid-19 à Dakar. Tristesse des supporters.
Ça crée une grande tristesse parce que c'était un président emblématique à l'OM. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de perdre une icône comme ça.
À votre invité à 7h40, Mathieu.
Danger de l'automédication, pénurie de certains médicaments, gestion des produits de santé à l'hôpital. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Dominique Martin, en direct sur Europe 1 à 7h40. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Près de 500 patients décédés dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures, 3500 morts, plus que les chiffres officiels chinois, mais aussi, c'est positif, plus de 9000 patients sortis guéris de l'hôpital.
Les services de réanimation manquent de bras. D'ailleurs, le directeur général de la santé a encore lancé hier soir un appel aux volontaires. On le sait moins, mais il y a aussi pénurie de médicaments essentiels en réanimation.
Et oui, les 9 plus grands hôpitaux d'Europe lancent l'alerte. Ils demandent à leur gouvernement plus de coopération, notamment l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ils seront bientôt à court et veulent des mesures d'urgence. Où en est-on dans les hôpitaux français, Virginie Salmen?
Eh bien, des chefs de service de réanimation décrivent une tension sur des médicaments comme les curares qui servent à paralyser les muscles respiratoires pour pouvoir intuber les malades sévères. À l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Bertrand Guidet surveille attentivement l'état des stocks.
On nous dit que les stocks ne sont pas énormes et qu'effectivement, ils activent la chaîne de production. Mais ça, c'est des médicaments absolument indispensables et pour lesquels il n'y a pas de substitut vraiment possible. Là, ça se compte en jours de stock pour ce type de médicaments. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Et avec un tel afflux de patients dans un état grave, la consommation d'hypnotiques et de morphiniques pour endormir les patients et soulager la douleur n'ont jamais été aussi fortes. Alors, les médecins doivent passer en mode médecine de crise, comme le professeur Bruno Mégarban, chef de la réanimation de l'hôpital La Ribaud.
C'est pas simple, nous devons essayer d'affiner au mieux les dosages. Donc plutôt que de prescrire des doses stables, adapter en permanence la posologie. Parfois mélanger deux médicaments dans une même seringue électrique, parce que nous manquons de seringues électriques.
Pénurie aussi de cathéters, de respirateurs et même de tuyaux pour respirateurs. On ne jette plus une ampoule de curare, me disait un médecin, on l'utilise jusqu'à la dernière goutte.
Sujet édifiant de Virginie Salmen, manque de médicaments et bien entendu manque de matériel. Hier, Emmanuel Macron s'est engagé à passer à la vitesse supérieure. Il promet 4 milliards d'euros pour financer des commandes de médicaments, de masques et de respirateurs.
En attendant, pour gérer l'urgence, c'est un peu le règne de la débrouille, comme ces masques de snorkeling Décathlon qui couvrent tout le visage et qui, avec l'aide de l'impression 3D, peuvent être branchés au respirateur.
Bonjour Romain Bosque.
Bonjour Mathieu.
Docteur Romain Bosque, chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et alors que vos opérations sont suspendues, vous travaillez donc à fabriquer en impression 3D, au cœur même de l'hôpital, cette petite pièce qui permet de transformer le masque, ce masque de plongée, de snorkeling. On en est là, à devoir bidouiller des masques Décathlon?
Oui, on améliore les procédés qui ont été développés par les Italiens, pour pouvoir les adapter au système de ventilation qu'on propose là actuellement aux patients avant et pour éviter l'incubation.
Alors, c'est aussi une illustration des initiatives que suscite cette crise de la solidarité. Décathlon, par exemple, a bloqué les ventes de ce masque pour les réserver au personnel de santé. Vous avez aussi accès à tous les plans du produit dans le détail, en 3D. Tout est fait pour que vous y arriviez, en fait.
Exactement, ils ont délivré ces plans et les projets de plans à une équipe italienne qui a pu avec ça designer des raccords. Et avec ce design qu'ils ont mis en partage, on a pu nous-mêmes le modifier et par conception assistée par ordinateur et ensuite l'imprimer en 3D. Et actuellement, nous faisons des tests sur simulateur.
Alors, il y a une petite pièce, voilà, à fabriquer en impression 3D qu'on ajoute sur ce masque. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr. Et ça permet de transformer ce masque, en tout cas de pallier le manque de respirateur. C'est une vraie solution ?
Alors, c'est une solution en mode dégradé. Hein. C'est toujours mieux d'utiliser le matériel qui a été fait pour ça. Le problème, c'est que les masques de ventilation non invasive, de la même manière qu'il y a une tension sur les médicaments et les curares, comme vous avez dit dans votre reportage précédent, il pourrait y avoir une tension sur ces masques qui sont bien utiles chez les patients qui arrivent en détresse respiratoire.
Merci beaucoup, docteur Romain Bosque, médecin chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, de nous avoir parlé de cette initiative de manière concrète, puisque vous essayez de tout garder au cœur de l'hôpital, je le reprécise, et de fabriquer cette pièce à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Merci beaucoup. 7h06 sur Europe 1. Vous le savez, le ministre de l'Agriculture en a appelé à l'armée de l'ombre pour venir en aide aux agriculteurs qui manquent de main-d'œuvre. De son côté, la préfecture de Seine-et-Marne a demandé le renfort des réfugiés dans les champs pour assurer les récoltes.
Et oui, mobiliser les réfugiés, une formulation qui a pu choquer certains. Ils voyaient une réquisition. Mais il n'en est rien. Théo Manval, 70, ont déjà répondu à l'appel et tous ont des contrats de travail.
Oui, des contrats de travail pour réfugiés volontaires, comme Zabioula. Il vient d'Afghanistan. Il a obtenu l'asile en juillet dernier. Il est donc en situation régulière en France. C'est la condition pour pouvoir participer. La deuxième, c'est de se porter candidat. Lui n'a pas hésité une seconde.
Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. Le gouvernement français m'a aidé. Maintenant, j'ai des papiers et je peux vivre en France. Donc c'est à mon tour d'aider. Je veux travailler pour rendre l'appareil.
Les embauches se feront en CDD, comme pour les saisonniers habituels, rémunérés à hauteur du SMIC. Les associations de soutien n'y voient que du positif. Ce sont des gens qui ont souvent du mal à trouver un emploi, à s'insérer, explique Delphine Leclerc, coordinatrice d'un centre d'hébergement près de Melun.
Il y en a qui étaient en attente d'une activité professionnelle, qui étaient dans des démarches justement pour travailler leur insertion, et tout s'était arrêté. Et donc là, d'avoir cette opportunité-là, pour eux, c'est un plus.
Pour Zabioula, ce sera même un rappel des récoltes qu'il faisait plus jeune avec son grand-père près de Kaboul. Même si pour la Seine-et-Marne, rappellent les agriculteurs, il va falloir encore patienter quelques semaines.
Théo Manval, et pour tous les volontaires qui veulent aider les agriculteurs, il y a toujours la plateforme des bras pour ton assiette. Plus de 150 000 personnes ont déjà répondu présent. 10 jours de décalage pour la déclaration de revenus annoncée hier soir de Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics. Ce sera à partir du 20 avril au lieu du 9. Et pour les déclarations papier, la date limite passe au 12 juin, un mois de plus que prévu. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 étaient réunis par visioconférence. Hier, ils ont promis d'aider les pays pauvres à supporter leurs dettes.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Pour répondre à la crise du Covid-19, tous les pays mobilisent des sommes considérables. C'est votre éclairage éco ce matin. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent ?
Vous avez raison, les sommes sont gigantesques, un peu comme si nous avions des plans Marshall dans tous les pays. L'OCDE d'ailleurs, qui réunit les pays développés, estime que rien que dans la zone euro, nous avons mobilisé dans ces plans largement plus de 10% de toute notre richesse. C'est plus de 1200 milliards d'euros, l'équivalent du PIB de l'Espagne. C'est comme un effort de guerre, il faut éviter l'effondrement de nos économies, les maintenir en vie. Alors où va-t-on trouver cette montagne d'argent ? Eh bien, on va l'emprunter.
Mais qui va nous prêter des sommes pareilles ?
Eh bien, d'abord, des investisseurs sur les marchés financiers, c'est d'ailleurs en fait des épargnants qui ont de l'argent à placer. Et puis, comme cela ne suffira pas, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle absorberait en quelque sorte le surplus, ce qui revient à dire, même si elle ne dira jamais comme ça, qu'elle fera tourner la planche à billets. La bonne question, c'est maintenant, et après, comment fait-on pour rembourser ? Alors, je vous livre une piste, on a parlé de guerre. Or, dans l'histoire du monde, toutes les guerres, sans exception, ont été suivies de périodes d'inflation, inflation qui fait que l'on rembourse ses dettes avec de la monnaie qui ne vaut plus grand-chose. Bref, il est bien possible que tout cet argent que nous allons emprunter pour sauver l'économie, nous ne le rembourserons jamais complètement.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, votre éclairage dans le journal de 7h sur Europe 1, et notez-le, dans un peu plus d'une heure, à 8h15, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Il va répondre ensuite à vos questions. L'échange se poursuit au 39-21 et avec le hashtag Radio Ouverte.
Ce chiffre qui illustre ce matin les répercussions de la crise crise sur notre économie. Le marché auto français vient de connaître une dégringolade historique, plus de 72% en mars. Pour l'ensemble de l'année 2020, les constructeurs prévoient une chute de 20%.
Le huis clos, le confinement entraîne une nette hausse des violences familiales, des femmes battues par leurs conjoints. Mais pas seulement, les associations de protection de l'enfance notent aussi une hausse des appels pour signaler les violences sur des enfants.
Oui, en France, 50 000 enfants sont placés, 300 000 suivis au sein de leur famille. Mais le confinement a donc des conséquences considérables sur l'aide sociale à l'enfance. C'est votre enquête ce matin, Salomé Legrand, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pu, et c'est rare, recueillir des témoignages directs d'éducateurs. La plupart sont inquiets.
Oui, d'abord parce que plus de la moitié des signalements de maltraitance viennent de l'école, fermée donc. Ensuite, parce que tous les éducateurs sont maintenant en télétravail avec limitation drastique de leurs déplacements, sauf pour les urgences absolues, les évidences. Pierre est évaluateur dans une cellule de recueil des informations préoccupantes.
C'est le bébé secoué, c'est l'adolescente qui se fait agresser au couteau par sa mère. Voilà. Après, pour le reste, on joue un petit peu la montre. Je mets mon numéro personnel en masqué puisque je n'ai plus accès à ma ligne professionnelle qui est une ligne fixe. Je tente de joindre les familles petit à petit. J'ai des appréhensions. Voilà, certaines familles qui ne décrochent plus, certaines familles qui nous disent tout va bien, mais ils disent tout va bien depuis le début. Et on ne peut pas factuellement leur renvoyer des choses qu'on ne peut pas observer vu qu'on est chacun chez soi.
Sachant qu'ils suivent parfois jusqu'à 80 dossiers chacun, tous n'ont qu'une seule crainte, découvrir des situations terribles à la sortie du confinement.
Et Salomé, il a fallu aussi s'adapter dans les foyers d'accueil.
Oui, soit les éducateurs sont, comme dans certains EHPAD, confinés avec les enfants, sauf que les établissements ne sont pas conçus pour cela, hein, ni même les équipes, puisque théoriquement, il y a école la journée. Du coup, certains départements ont rappelé des étudiants éducateurs spécialisés. Soit on bricole, comme Eric, directeur de centre, qui a dispatché les enfants directement chez les éducateurs et qui en accueille lui-même 3 de 19, 18 et 11 ans.
Je suis directeur, éducateur, veilleur de nuit, homme de ménage, je suis à tous les postes. Personnellement, j'ai qu'un ordinateur. J'ai des enseignants qui m'envoient des tonnes de trucs à faire. J'en ai un qui est en CAP d'électricité, j'y connais rien. Il faut réinventer notre travail, là. Ils découvrent la musique qu'ils n'ont jamais entendue. Ça change un peu du rap. Ils sont complètement différents que quand ils sont dans le centre. Il y a de l'empathie qui naît chez eux. Ça fait 15 jours que je les ai. Qu'un jour que je n'ai pas levé le son de ma voix, c'est vachement intéressant ce qui se passe.
L'un a même demandé à rester après le confinement, mais pas sûr, dit le directeur.
Merci Salomé Legrand, vous retrouvez la version longue de cette enquête sur notre site europe1.fr. Aux États-Unis, on déplore 4000 morts, chiffre qui a doublé en 3 jours seulement.
Oui, Donald Trump, qui jusqu'ici avait tendance à minimiser, a changé de ton hier soir lors de sa conférence de presse à la Maison-Blanche. Les États-Unis vont faire face à 2 semaines très, très douloureuses, a-t-il dit, avec entre 100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées.
Notre pape est mort, titre ce matin à la une de l'Équipe, avec une photo de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé hier à Dakar des suites du Covid-19. Il avait 68 ans.
Pour l'OM, il restera à jamais dans le cœur des Marseillais, comme l'un des grands artisans de l'histoire du club. « Pape a été mon ange gardien pendant toute ma carrière », écrit Basile Boli, ancien défenseur de Marseille, un très bel ami. Sa voix unique me manquera à jamais. Elle manquera aussi aux supporters comme Lucas, qui soutient l'OM depuis 25 ans.
Ça crée une grande, grande tristesse parce que c'est un président emblématique à l'OM. C'est le plus grand depuis Tapie. Hein. Quand il était à la tête du club, le club était toujours en haut. On a joué la Ligue des Champions quasiment tout le temps quand il était là. Il nous a ramené des joueurs incroyables comme Mandanda, Ribéry. Et puis c'est surtout cette image quand on monte à Paris et qu'on va faire 0-0 là-bas avec les Minots. Puis c'est surtout la rivalité qu'il a su remettre, la ferveur face à Lyon, face au PSG, et garder vraiment cet esprit olympien. Plus que tout, vraiment, c'est l'image que j'ai de Pape Diouf, de son passage à l'OM. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de perdre une icône comme ça.
Un supporter de l'OM avec Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. On va reparler de Pape Diouf avec Virginie Fulpin, évidemment, juste après 7h20 sur Europe 1 tout à l'heure. Merci Hélène, il est 7h14.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
On s'efface d'une certaine manière sur Europe 1 le matin pour vous laisser place. Laissez vos questions, par exemple, au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Question que vous adressez au médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonjour, Jimmy.
Bonjour Mathieu.
Le docteur Jimmy Mohamed. Alors cette question tient de Stavisky. Difficile hein, cette question. Quand je reviens travailler confiné avec 32 élèves, enseignant Stavisky, dans une petite salle, qui me garantit que je ne risque pas ma vie et, celle de mes élèves ?
C'est vrai que c'est difficile, puisqu'on ne peut absolument pas répondre à cette question. Est-ce que le confinement va être levé à condition d'avoir des tests sérologiques que nous ferons pour savoir si nous avons ou pas contracté la maladie? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est une des pistes possibles. En ce qui concerne les élèves confinés dans une classe de 32 avec 32 élèves, eh ben on peut pas répondre. Même si, pour l'instant, les données qu'il semble désormais avoir, c'est que malgré tout, les étudiants, les enfants sont peu à risque de la maladie, même si on a malgré tout des annonces terribles. On pense que les enfants tombent facilement malades et leur système immunitaire étant un peu plus compétent que les nôtres, et ben finalement ils s'immunisent assez rapidement. Mais on ne peut absolument pas répondre à cette question. Ce sera exactement la même problématique pour les chauffeurs de bus, dans le métro, dans les entreprises, dans les start-up. Je pense que malheureusement, plus rien ne sera jamais comme avant. Et même si jamais on vous dit allez-y, retournez en collectivité, je pense qu'on n'aura aucune certitude. Je ne sais pas comment sera la situation après confinement.
Ça paraît tellement loin aujourd'hui.
Ça paraît tellement loin, effectivement. Et peut-être qu'il y a un confinement qui va être levé partiellement. Pour les écoles, on ne sait absolument pas quand est-ce que les cours vont reprendre. Donc je pense que c'est prématuré encore pour répondre à cette question.
Eh bien, on la garde. On la garde. Et effectivement, la crainte de ce qu'on appelle une deuxième vague de l'épidémie dans la suite, on va en reparler. Carrie nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Que sait-on de la durée d'incubation? Elle pourrait aller jusqu'à 20 jours. Les personnes fragiles ont-elles plus de chances de développer les symptômes avant la fin de la durée d'incubation?
Alors, la période d'incubation, c'est le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes de la maladie. On estime actuellement que la période d'incubation du Covid-19 dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de 5 jours. Alors évidemment, ces estimations sont actualisées à mesure des nouvelles données qui sont disponibles. Et en ce qui concerne une durée d'incubation plus importante de 20 jours, elle peut être erronée puisque lorsqu'on s'intéresse à l'incubation, on fait une enquête autour du cas et on demande en gros qui aurait pu vous contaminer. Et lorsque vous dites 20 jours, peut-être qu'entre-temps, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez été contaminé par un autre biais, par une autre personne. Donc il est peu probable qu'on soit au-delà des 14 jours. Certaines personnes vont développer des symptômes très rapidement, au bout de 24-48 heures. Est-ce que c'est lié à leur immunocompétence? On n'en sait rien. Est-ce que c'est lié à une charge virale plus importante de quelqu'un qui vous aurait contaminé de façon plus importante? On le suppose, mais on n'en est pas sûr. Mais retenez une période d'incubation entre 1 et 14 jours, avec la moyenne autour de 5 jours.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à vos questions toutes les heures dans nos flashs. Vous retrouvez Jimmy Mohamed et puis entre 15h et 16h, c'est Sans Rendez-vous, l'émission de santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy, 7h17. Et tous les matins après le journal de 7h, l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec le confinement et les restrictions de voyage, le monde de l'événementiel est totalement à l'arrêt. Mais plutôt que d'annuler ou de reporter les événements, on commence désormais à les organiser en réalité virtuelle.
Oui, il y a déjà eu pas mal de conférences ou de lancements de produits diffusés en direct sur Internet. Mais là, ça va beaucoup plus loin. On ne va plus simplement rester passif devant son écran. On va pouvoir se déplacer, manipuler des objets, les regarder sous tous les angles et même dialoguer avec d'autres participants. Alors, pour que ça marche, évidemment, il faut d'abord recréer son événement virtuellement en 3D. Ensuite, il y a un petit peu de logistique, puisqu'il faut envoyer un casque de réalité virtuelle à tous les participants et pas oublier de le récupérer. Mais après, eh bien, chacun pourra se connecter de chez lui et participer quasiment comme s'il était physiquement sur place.
Il y a déjà des manifestations qui se sont déroulées en réalité virtuelle?
Oui, il y a plusieurs défilés de mode et il y a quelques jours le lancement d'une nouvelle gamme de chaussures Asics. Mais on pourrait même quasiment imaginer le salon de l'auto totalement virtuel. Il faut savoir que les constructeurs dépensent aujourd'hui des fortunes pour créer un stand, déplacer tout le matériel et les équipes. Et dans certains cas, ça peut revenir moins cher de passer au virtuel. Mais le principal problème, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment toucher les produits ou les essayer. C'est plutôt des démos qu'on peut visionner sous tous les angles. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle, mais parfois ça peut donner le mal de mer et c'est pas très pratique quand on veut prendre des notes. Mais dans un monde où la distanciation sociale est devenue la norme, eh bien on pourrait voir ce type de manifestation se multiplier et qui sait, ça pourrait donner un second souffle à l'événementiel.
Merci Anissé Mbida, l'innovation tous les matins avec vous, il est 7h19. Europe 1. À suivre, le monde bouge, Axel de Tarlet et l'édito de Virginie Fulpin bien sûr.
Il est évident qu'en ayant été président de l'Olympique de Marseille, donc au devant de l'actualité.
Et cette voix, vous la reconnaissez, évidemment, c'est la voix de Pape Diouf, dont on a appris la mort hier des conséquences du Covid-19. On va reparler de Pape Diouf, de l'OM, avec Virginie dans un instant.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest.
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est notre défi, hein. Vous proposez une matinale en télétravail. Vous le savez, tous les matins, nous sommes chez nous, nos invités sont chez eux, nos chroniqueurs aussi, et nous essayons de raconter l'actualité, d'écouter avec vous le monde qui change et de vous informer, de vous laisser place évidemment autour du coronavirus. On retrouve nos chroniqueurs en direct de chez eux. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu.
On va vous retrouver pour un édito consacré à Pape Diouf dans un instant. Mais d'abord Axel de Tarlé, Le Monde Bouge. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Le Covid va-t-il terrasser la French Tech, mettre à bas la Startup Nation? Nos startups, jeunes pousses en français, pourraient bien ne pas survivre au coronavirus.
Eh bien oui, parce que les startups ont besoin de deux choses pour vivre. D'abord, comme toutes les entreprises, elles ont besoin de clients, d'activités. Mais elles ont besoin en plus d'argent frais. Pourquoi ? Ben parce qu'une start-up, comme son nom l'indique, est en phase de démarrage, d'investissement. Et donc, au début, cette entreprise perd de l'argent. Elle a donc besoin en permanence d'investisseurs pour remettre au pot jusqu'à ce qu'elle devienne une belle plante. Au fond, c'est le modèle Amazon, hein, vous savez, qui a perdu de l'argent pendant 20 ans, mais qui a été soutenu chaque année par des investisseurs, des fonds de capital risque qui ont accepté de combler les pertes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaye de reproduire en France avec ce qu'on appelle la French Tech, donc des milliers d'entreprises, de start-up prometteuses, mais qui ne sont toujours pas rentables. Alors, on connaît les plus connus, hein, Blablacar, Deezer, Doctolib. Le problème, c'est qu'avec le coronavirus, les investisseurs en capital risque ont disparu, volatilisés, tous aux abris, plus question de prendre des risques et d'investir.
Et donc, faute de pouvoir lever de l'argent frais, nos start-up sont menacées de faillite.
Oui, et ça n'est pas qu'une menace en l'air. Vous savez qu'aux États-Unis, eh ben ça y est, on a déjà une première faillite retentissante. C'est OneWeb, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up, vous savez, qui promettait de relier le monde à Internet avec des satellites. Eh bien, OneWeb, faute de pouvoir lever de l'argent frais, vient de se déclarer en faillite. Et donc, pour limiter les dégâts et les risques, le gouvernement français vient de créer un fonds de 80 millions d'euros, donc qui sera dédié à nos start-up qui auraient besoin de lever de l'argent frais là dans les prochaines semaines, les prochains mois, car on parle là quand même de tout un écosystème foisonnant qu'on a en France, hein, qui représente environ 10% des créations d'emplois du pays et qu'on a mis des années à construire. Et donc, vous voyez, il ne faudrait pas que toutes ces start-up s'arrêtent brutalement et disparaissent à cause du coronavirus.
Merci Axel de Tarlé. Le monde bouge et Axel de Tarlé vous le raconte. Cette thématique, on l'explorera évidemment avec François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France sur Europe 1 à 8h15. 7h23, l'édito de Virginie Fulpin. Pape Diouf est mort hier soir des suites du coronavirus. L'ancien président de l'Olympique de Marseille avait 68 ans. Pour vous, Virginie, Pape Diouf, c'était un homme qui avait su garder ses valeurs dans le milieu du foot. Et c'est ce qui rend ce moment si triste.
Oui, dans un monde de faux-semblants, Pape Diouf était de ceux qui ne trichent pas avec les relations humaines. La tristesse intense ressentie depuis hier soir, aussi bien chez les supporters de l'OM que chez les dirigeants du foot, aussi bien en France qu'au Sénégal, aussi bien chez ses amis que chez ses meilleurs ennemis dans le foot, montre à quel point Pape Diouf parlait vrai et s'engageait totalement. Il a souvent raconté que quand il était enfant, sa mère préparait le repas en prévoyant toujours des parts supplémentaires au cas où quelqu'un les rejoigne. Et pour moi, il a su garder cet esprit-là de partage, de goût pour le collectif et de contact. Et réussir sans se renier n'est pas chose aisée hein, dans le football. Dans un monde du foot où on ne parle souvent que de chiffres, Pape Diouf avait surtout du goût pour les lettres. Et ça aussi, ça détonnait. Hein. À coups de phrases bien tournées et de formules littéraires, il savait charmer son auditoire et mettre à bas les clichés. Non, les passionnés de football ne sont pas forcément des ignorants bas du front. Et moi, j'ai envie de le remercier d'avoir su montrer que oui, on pouvait aimer le foot et la culture. Ça n'est pas incompatible. Pape Diouf, sa passion de la lecture, c'est dans les journaux sportifs qu'il l'a puisé. Au commencement, était le verbe et il a su garder cette poésie aussi bien à ses débuts comme journaliste que comme agent de joueur et comme dirigeant.
Pape Diouf était un homme de parole, mais aussi un homme de gestes forts.
Oui, ce qui m'a marqué chez lui aussi en tant que président de l'OM, c'est cet engagement total pour ce club qu'il aimait tant. Et il n'hésitait pas à mouiller le maillot et à montrer les muscles, comme on dit. Ses joutes verbales avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, restent des moments savoureux dans la vie du foot français. Parce que ces deux-là avaient beau se tancer, tant et plus, ils avaient surtout un gros point commun, celui de défendre leur club bec et ongle. Et ça, ça se respecte. Pape Diouf avait une relation quasiment de père à fils avec nombre de joueurs. Et un père, ça s'est aussi recadré quand il le faut. Quand Franck Ribéry avait des velléités de quitter l'OM pour Lyon, Pape Diouf a su le priver de sortie, fermement. Mais jamais les joueurs ne lui en ont voulu. Au contraire, il était leur boussole dans un monde qui s'emballe. Oui, Pape Diouf est resté fidèle à ses principes, à son amour des lettres, de Marseille et du football toute sa vie. Et c'est pour ses valeurs qu'on le pleure tant aujourd'hui aussi.
Merci Virginie Fulpin. Nous revenons évidemment sur la mort de Pape Diouf dans nos éditions ce matin. On l'a appris hier soir. Il avait 68 ans. Virginie Fulpin, l'édito, d'accord ou pas, vous partagez en tout cas sur les réseaux sociaux le hashtag Radio Ouverte pour retrouver Europe 1, pour que l'on se retrouve. Et le 39-21 bien sûr, 7h25. Europe 1. À suivre vos appels justement, la météo Laurent Cabrol et un journal à 7h30. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
La France bouge, c'est votre rendez-vous quotidien. Avec cette crise sanitaire, nous vous proposons un dispositif spécial solidarité. Que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité, on vous donne la parole. Nous allons vous écouter, mettre en avant vos initiatives et récolter toutes vos bonnes idées.
Europe 1, écoutez le monde se mobiliser.
La France bouge, la France se bouge, c'est tout à l'heure, à partir de midi sur Europe 1 et sur le hashtag Radio Ouverte.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est 7h26, on va retrouver Laurent Cabrol et le journal, mais un peu de musique d'abord.
À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films.
On a Oxmo Puccino, mais aussi Pierce Faccini, Didier Vampas, San Severino. Ils répondent tous présents à l'appel d'un festival bien dans l'air du temps. Le festival Je reste à la maison. Vous en avez vu beaucoup, des artistes qui publient des vidéos, des lives de chez eux. Nous avions même hier le rappeur Booba qui produit une émission hebdomadaire sur le coronavirus. Là, l'idée, c'est de continuer à faire la fête depuis votre canapé. Yael Naïm sera là aussi dans cette ambiance intimiste où des artistes vont se rassembler virtuellement sur Facebook pour une semaine de concert et ça commence ce soir sur le site du festival hashtag je reste à la maison. Vous avez un plan du lieu comme pour un vrai festival et bien là ça va du salon à la cuisine en passant par la chambre, ce doit être l'accès VIP. Du vrai live, du vrai direct sur Facebook avec dans cette belle liste un concert de TT.
J'ai le cœur qui part en spirale. Mon docteur m'a dit c'est viral. Je n'aime pas ce côté mot dièse, mais ça m'apaise. Weekend sans wifi.
Tété sur Europe 1, je vous rappelle le nom du festival, Je reste à la maison sur Facebook. Ça commence ce soir et jusqu'au 7 avril, 7h28. Très bon réveil à toutes et à tous. Je vous le rappelle, matinale prolongée sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Et après 9h, nous allons entrer dans votre quotidien de confiné encore une fois. Les vacances scolaires qui arrivent à grands pas, le télétravail et l'école à domicile aujourd'hui, mais comment demain réussir à gérer vos enfants tout en gérant vos activités du quotidien? Le confinement en vacances, autre paire de manches, 15 jours avec les enfants confinés, on va en parler avec vous évidemment, vous avez de la ressource, vous avez des idées, je le vois sur les réseaux sociaux pour occuper les enfants, venez partager ces aussi de la solidarité. Le 39-21, le hashtag Radio Ouverte, nous serons avec Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre à Paris et auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante. 39-21, je vous attends. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Il se passe des choses bizarres, Mathieu.
Je vous écoute.
Non, mais franchement, jamais je n'ai vu la France aussi figée. C'est-à-dire que depuis 5h30 que j'observe les cartes, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On dirait que le paysage est confiné comme les habitants. C'est ahurissant parce que, mais je plaisante pas, hein, si vous avez un tout petit peu de pluie dans les Corbières ou du côté de Carcassonne parce que il y a du vent marin, mais rien ne bouge. Vous avez des nuages, ils sont toujours aux mêmes endroits, les coins de ciel bleu ne bougent pas non plus, c'est incroyable. Et les températures sont froides, alors ça c'est quand même une particularité. Moins 6 à Vichy au Puy, moins 5 à Luxeuil, Guéret, Épinal, Saint-Étienne, Nevers, température très froide, vous voyez. Hein. Moins là, ce sont des gelées dangereuses pour la végétation. Hein. Moins 2 à Nancy, moins 1 à Orléans, c'est plus supportable. 1 à Lyon, 2 à Lille, 3 à Brest, 4 à Paris, 5 du côté de Cognac, 6 du côté de Bordeaux, 6 degrés. Et entre 11 et 16 cet après-midi, vous voyez, les températures vont prendre une bien bonne bouffée dans le courant de la journée, mais sans tenir compte du vent. Le vent va souffler quand même modérément, 30, 40, 50 km/h. Ça rafraîchira un petit peu l'atmosphère. Demain, ce sera pareil. Vendredi, il y aura un petit peu de pluie sur la moitié nord, mais sur la moitié sud, ça ne bougera pas. Et puis samedi, dimanche, s'annonce comme des journées, j'allais dire, sympas. Malheureusement, on est enfermé, mais ce sont des journées printanières presque, hein, entre 20 et 21 degrés.
Merci Laurent Cabrol pour la météo. À 7h30, nous retrouvons Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, vous êtes sur Europe 1.
Bien sûr, le soignant, il va faire son choix, mais après, il va falloir qu'il puisse déverser ce trop-plein émotionnel, amener le soignant à ne pas rentrer dans une spirale de culpabilisation.
Ils soignent les corps, mais qui soignera leurs esprits? Les personnels des hôpitaux sous très forte tension depuis des semaines ont besoin de soutien psychologique. Nous avons contacté un centre d'appel. 499 décès supplémentaires en France, record en 24 heures. Pour sortir de la crise, Emmanuel Macron appelle à produire français des masques, notamment virage politique à 180 degrés, nous dira Michael Darmon. Prenez garde aux arnaques lors de vos rares sorties de faux policiers ou gendarmes tentent de vous dresser une amende. Et puis, regardez vos mains. Des rougeurs, des gerçures, des crevasses, peut-être à force d'être lavées des dizaines de fois par jour. Dans ce journal, nos conseils pour les soulager. Votre invité, juste après ce journal, Mathieu.
Les dangers de l'automédication, l'hydroxychloroquine qui agite les esprits, la gestion des produits de santé à l'hôpital avec Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, en direct dans 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les heures de garde qui s'accumulent, les choix incessants avec en jeu des vies humaines, le quotidien, des milliers de membres du personnel hospitalier sous très forte tension dans plusieurs régions. Emmanuel Macron a promis hier 4 milliards d'euros pour l'achat de médicaments, de respirateurs, de masques. Mais ces personnels soignants ont aussi besoin de soutien psychologique.
À Aix-en-Provence, l'hôpital psychiatrique Montperrin propose une consultation gratuite par téléphone, ouverte à tous, mais bien souvent, ce sont des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui appellent, Nathalie Chevance.
Au bout du fil, 4 psychologues formés à la médecine d'urgence se relaient pour écouter les souffrances, soulager le stress, comme dans une situation de catastrophe, un crash aérien, un attentat. Exemple de questions posées par des soignants, Pascal Rio, directeur du centre hospitalier Montperrin.
Comment je peux faire pour prendre en charge deux patients alors que je n'ai qu'un seul lit ou un seul respirateur, donc des grosses questions éthiques qui se posent. Bien sûr, le soignant, il va faire son choix, mais après, il va falloir qu'il puisse déverser ce trop-plein émotionnel, amener le soignant à ne pas rentrer dans une spirale de culpabilisation.
Désarroi aussi des soignants face à la pénurie de matériel avec un flux d'informations pas toujours très clair, c'est ce qui revient également aux oreilles des psychologues.
C'est assez compliqué quand on vous dit, mettez-vous un masque pour le matin et un masque pour l'après-midi, et le lendemain, où on vous dit non, un seul masque sur toute la journée, ça sera suffisant. En fait, les consignes évoluent au fil aussi de la gestion de la pénurie, notamment de masques et autres dispositifs. Et les soignants sont quand même assez perturbés par ces messages, on va dire fluctuants, pour ne pas dire contradictoires.
Voilà donc un point d'écoute pour que les soignants puissent se décharger en dehors du cadre de travail pour tenir sur la durée en passant, s'il le faut, par une consultation psy de proximité, un dispositif qui va monter en puissance dans les prochaines semaines.
Les soignants français, grâce auxquels plus de 9000 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Mais la triste réalité est là, aussi très forte tension en Île-de-France, d'où 36 patients vont être évacués aujourd'hui vers la Bretagne dans 2 TGV médicalisés. On compte ce matin plus de 3500 décès dans les hôpitaux, 499 supplémentaires rien qu'hier. Un record en 24 heures. Les autorités devraient communiquer aujourd'hui un bilan comprenant aussi les décès dans les EHPAD.
Nous allons appeler dans le journal de 8 heures le professeur Benoît Vallet pour faire le point sur la situation en Île-de-France, simplement très tendue. 2000 places en réanimation, 1900 étaient occupées hier soir. Le déconfinement passera notamment par une bonne politique de tests. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre Édouard Philippe. On attend beaucoup des tests sérologiques, c'est-à-dire via une prise de sang.
Ils permettront de savoir si on est malade à l'instant T ou si on l'a été donc qu'on est immunisé. Une première expérimentation se déroule en ce moment dans un EHPAD de Nancy. Précision dès le début du journal de 8h.
Le virus qui a emporté cette nuit un grand nom du monde du football, Pape Diouf, président très populaire de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Il est mort à 68 ans dans un hôpital de Dakar au Sénégal.
Déclarez vos revenus, ce ne sera pas à partir du 9 avril comme prévu, mais à partir du 20, date décalée annoncée hier du ministre Gérald Darmanin sur TF1. L'ampleur de la crise économique, illustrée ce matin par ce chiffre, chute de plus de 72% en mars du marché automobile français, annoncent les constructeurs. Moins 73% pour PSA, moins 72% pratiquement pour Renault.
La crise qui frappe aussi les PME et les entrepreneurs indépendants, qui nous appellent nombreux au 39-21 d'ailleurs depuis le début de ce confinement. Ils pointent du doigt ce matin les assureurs accusés de ne pas jouer le jeu, Maud Descamps.
Patrons de PME indépendants, ils sont nombreux à avoir essuyé un refus de leur assureur. Le risque d'épidémie n'est pas couvert par leur contrat. Un geste a tout de même été fait, souligne Stéphane Pellet de la Fédération française de l'assurance.
L'ensemble des assureurs a décidé de participer au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics, de verser 200 millions d'euros sur ce fonds. Chaque assureur, par ailleurs, a mené des actions particulières auprès de ses assurés pour les aider dans ces moments difficiles.
200 millions d'euros, une somme dérisoire, estime Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants.
C'est une aumône, c'est indigne. Je rappelle que les assurances, c'est 2 428 milliards de placements. Et c'est 8 milliards de bénéfices nets en 2018. Le comportement des assureurs est indécent et irrespectueux.
Les indépendants et dirigeants de PME réclament la création d'un état de catastrophe sanitaire qui permettrait d'être indemnisé. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'y est dit favorable, mais cette mesure ne serait effective que pour la prochaine crise. Le ministre de l'économie attend donc des propositions des assureurs dans les prochains jours pour aller plus loin dans l'indemnisation.
Et la solidarité, les solutions, c'est dans La France Bouge sur Europe 1, vous le savez, entre 12h et 14h. Le comportement des assurances, ce sera l'un des thèmes abordés aujourd'hui. Raphaël Duchemin qui recevra notamment un restaurateur qui a lancé une pétition afin de progresser sur cette question des indemnisations. Sachez que nous parlerons de ces questions avec François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, à 8h15.
Emmanuel Macron a visité hier le plus gros producteur français de masques près d'Angers. Le président a lancé un appel à produire français pour sortir de la crise. Avec nous, Mickaël Darmon. Mickaël, cette position du président, c'est un tournant politique.
Ah, c'est même un virage à 180 degrés. Hein. Rendez-vous compte, hein. Emmanuel Macron, le chantre de la mondialisation, qui vante désormais le retour à une production nationale. Nous devons rebâtir notre souveraineté, a-t-il dit hier. Vous savez, ça rappelle le slogan des communistes des années 70 qui disait « Achetez français ». Eh bien, c'est pareil. C'est un changement de ton, mais c'est aussi un changement de pied. Emmanuel Macron cherche à séduire des deux côtés de l'échiquier politique en s'adressant aux souverainistes de droite comme de gauche. Il montre aussi qu'il entend les critique de Marine Le Pen. Hier à Angers, Emmanuel Macron a posé les bases de son nouveau projet politique, souveraineté et solidarité. Il parle également ces jours-ci de France unie. La formule n'est pas choisie au hasard. C'était le slogan de campagne de François Mitterrand en 1988 qui lui avait permis de se faire réélire sur le thème de l'Union nationale.
Mickaël Darmon, le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Prenez garde lors de vos sorties, forcément rares, certains policiers et gendarmes qui pourraient contrôler le motif de votre déplacement sont des faux. Ces escrocs tentent de vous extorquer 135 euros en liquide, montant de l'amende. C'est arrivé un peu partout sur le territoire et récemment dans le nord de la région parisienne.
Le colonel Stéphane Brunet, qui commande les gendarmes du Val-d'Oise, vous délivre ses conseils pour ne pas se faire avoir.
Ils agissent souvent en civil à partir de voitures banalisées. Ils portent des brassards plus ou moins réels de police ou de gendarmerie. Et c'est sous ce couvert-là qu'ils essayent de récupérer de l'argent liquide. Nous, on appelle à la prudence, c'est-à-dire que le paiement en espèces et immédiat sur le lieu du contrôle n'est jamais exigé. Il faut bien distinguer les gendarmes et les policiers qui agissent. Donc, ils agissent en uniforme, avec de l'armement, avec un véhicule sérigraphié, c'est-à-dire qu'on voit police ou gendarmerie le plus souvent. Tout ça, ça permet de vérifier que ce sont bien des vrais agents de la force publique. En cas de doute, tout simplement, il faut composer le 17, hein, qui est la ligne d'urgence, et qui permettra de vérifier qu'il s'agit bien d'un vrai contrôle de police ou de gendarmerie.
Gare aux arnaques, le colonel Stéphane Brunet, joint pour Europe 1 par Guillaume Bié. C'est le tout premier geste barrière, celui martelé par les autorités depuis le début. Lavez-vous les mains, vous le faites sans doute désormais des dizaines de fois par jour, c'est bien, seulement voilà, ça met la peau à rude épreuve.
Votre peau est peut-être sèche, elle se craquelle, alors comment concilier hygiène parfaite des mains et respect de cette règle sanitaire essentielle? Réponse, Pierre Herbulot.
C'est le comble pour un geste barrière, devenir agressif.
Conformément aux consignes, Sophie se lave très régulièrement les mains. Elles en portent même des séquelles.
Elles sont soit toutes rouges, soit très... la peau est comme toute ridée en fait. Et parfois ça saigne, ça se crevasse en fait. Voilà. Et ça me tire. Ça me tire, ça me brûle.
Des symptômes que connaît très très bien Jean Del. Il est interne à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bah, faut imaginer qu'en gros, à l'hôpital, on se lave les mains pratiquement à chaque fois qu'on touche une surface. Donc je dois me laver les mains, je sais pas, 15 fois par heure. À chaque fois que je vais voir un patient, je me lave les mains. Une fois que j'ai vu le patient, je me lave les mains. Il suffit que j'ouvre 3-4 portes, je me lave les mains.
L'eau savonneuse et encore plus le gel hydroalcoolique assèche la peau. Malheureusement, il n'existe ni alternative ni remède miracle. Le mieux pour la dermatologue Isabelle Rousseau, c'est d'être généreux sur la crème hydratante avant de se coucher.
Bien mettre une crème, vous savez, comme si on mettait un masque sur le visage, à ce moment-là, mettre une crème un peu masque sur les mains pour qu'en fait, elle se repose et qu'elle se réhydrate la nuit.
Au grand mot, les grands remèdes, oubliez les crèmes agréables et parfumées pour des crèmes grasses et beaucoup plus efficaces.
Oui, j'ai bien retenu les conseils de Pierre Herbulot, d'autant que je vous l'avoue, Mathieu, je suis totalement concerné.
Totalement, ça veut dire que vous vous lavez les mains. C'est déjà ça, c'est toujours ça de prix. Jérôme Lacroix, merci beaucoup pour le journal de 7h30 à 8h. À 8h, nous allons parler de la crainte d'une deuxième vague. Avec cet exemple à Nancy, dépistage systématique de tous les personnels dans un EHPAD. Vous allez l'entendre, les résidents et les soignants, bien sûr, dans un EHPAD. C'est à la une du journal de 8h tout à l'heure. 7h40. Comme tous les jours sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct. Bonjour Dominique Martin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, je le précise. La gestion du médicament dans une situation sanitaire inédite, un état d'urgence sanitaire, beaucoup de questions. D'abord, votre alerte cette semaine sur les dangers de l'automédication. L'hydroxychloroquine suscite bien des fantasmes, des essais sont réalisés, mais on ne joue pas à l'apprenti sorcier chez soi, même des médecins s'y trompent, il y a un vrai danger.
Oui, l'hydroxychloroquine est un médicament qui est actuellement, vous savez, une étude vient de démarrer à Angers pour voir si elle était efficace, et ça c'est très important, et d'autres essais cliniques utilisent l'hydroxychloroquine, mais en attendant, il n'y a aucune preuve de son efficacité, et son utilisation en ville, et en particulier en automédication, peut être dangereuse. C'est un médicament qui a des effets secondaires important, notamment cardiaque, qui chez certains patients fragiles peut entraîner des phénomènes cardiaques qui peuvent être graves.
Et vous comptez des accidents ?
Alors, nous faisons remonter les informations à partir des centres régionaux de pharmacovigilance. Donc, il y a un certain nombre d'informations nous sont remontées. En fait, nous avons deux signaux que nous regardons de très près. Les ventes quotidiennes, qui ont été multipliées par deux ces derniers jours, qui montrent que l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil, est très largement prescrit.
Des ventes multipliées par deux ?
Oui, multiplié par deux en quelques jours, donc qui montre que, alors que ça n'est pas autorisé, le plaquenil est largement prescrit manifestement dans le Covid et ça n'est pas indiqué. Et d'autre part, nous avons des signaux qui nous remontent, notamment de troubles cardiaques, mais pas seulement, avec des troubles de la conduction cardiaque, des gens font des malaises. Et nous avons également quelques décès, alors peu nombreux aujourd'hui, je tiens à le dire.
Trois, je crois,
d'analyse,
Dominique Martin,
trois décès à ce jour analysés, mais d'autres informations remontent et nous sommes en cours d'analyse, en cours d'enquête pour voir ce qu'il en est exactement.
Alors les dangers de l'automédication avec un syndrome, il faut bien comprendre, un virus que même les plus grands professeurs connaissent mal aujourd'hui. Et cette question de l'hydroxychloroquine, molécule miracle, aujourd'hui, il y a aussi un risque, si j'ose dire, Dominique Martin, pour ceux qui en prennent déjà, qui en ont besoin de cette molécule, un risque de pénurie.
Alors, le fait de prendre de l'hydroxychloroquine en ville, effectivement, a plusieurs conséquences. D'abord, un, aujourd'hui, on ne sait pas si ça marche. Deux, il y a des effets secondaires, on vient d'en parler. Et trois, le risque est de priver des malades du lupus et des polyarthrites rhumatoïdes de leur traitement habituel. C'est un médicament qui est utilisé dans ces maladies. Ce sont des maladies importantes et ces personnes ont besoin de ce traitement. Et donc, si ce médicament est utilisé dans des conditions qui ne sont pas prévues, eh bien, il y a à terme un risque de pénurie.
À terme, un risque de pénurie. On s'était inquiété, alors, sur une molécule qui est beaucoup plus connue par les Français. On s'était inquiété pour le paracétamol, le doliprane, les feralgans. Aujourd'hui, il est rationné. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on en trouve bien, du coup ?
Oui, nous avons mis en place donc des mesures de restriction sur l'utilisation et la délivrance du paracétamol. Une boîte à la demande normale, deux boîtes si vous avez des symptômes. Et ça fonctionne très bien. Là aussi, nous suivons les ventes quotidiennement. Et nous avons observé une baisse absolument spectaculaire de la délivrance et des ventes donc de paracétamol. Et donc des mesures de cette nature-là fonctionnent bien. Et donc nous espérons que le décret sur le Plaquenil qui dit que le Plaquenil ne peut être utilisé qu'à l'hôpital, à ce jour, on verra demain, hein, les choses ont sans doute évolué, mais à ce jour ne peut être utilisé qu'à l'hôpital, et les informations que nous donnons, la mise en garde que nous faisons, nous espérons que cela aussi va fonctionner pour que les gens soient raisonnables. Aujourd'hui, il n'est pas utile d'avoir un problème cardiaque pour encombrer les hôpitaux qui sont surchargés. Ça serait vraiment un mauvais service à rendre aux hôpitaux, alors même qu'on ne sait pas ce qu'il en est du bénéfice.
Je comprends le message et on se résume, Dominique Martin, prescrit éventuellement, parce qu'on fait des tests en ce moment, à l'hôpital, pas en médecine de ville, et quand vous en prenez alors que ce n'est pas l'indication, vous privez certains malades de leurs médicaments et vous prenez le risque d'engorger les urgences, je comprends. La pénurie, le mot pénurie, pardon, mais justement, plusieurs médicaments, plusieurs produits utilisés en réanimation manquent aujourd'hui. Des curares, des sédatifs qui sont absolument nécessaires à la réanimation. À quoi est-ce qu'on assiste, Dominique Martin, là ? À la loi de l'offre et de la demande ?
Alors, ce à quoi on assiste, d'abord, c'est une explosion des besoins. En France, comme dans d'autres pays dans le monde, les besoins ont été multipliés par 10, par 20, par 30, de façon absolument inédite, hein, spectaculaire. Vous savez, il a été annoncé que le nombre de lits de réanimation allait passer de 5 000 à 14 000, avec des durées d'hospitalisation en réanimation qui sont longues, de 2 à 3 semaines, et il y a des besoins absolument considérables, et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe et c'est vrai dans beaucoup de pays du monde. Et du coup, il y a une véritable tension au plan mondial sur ces médicaments. Donc,
je comprends ce que vous dites, Dominique Martin, c'est mondial, et il y a d'ailleurs, on le relayait ce matin, cette alerte des 9 plus grands hôpitaux d'Europe, dont l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ils seront bientôt à court de ces médicaments essentiels pour les patients atteints de Covid-19. Ils réclament des mesures d'urgence. Que peuvent être ces mesures d'urgence ?
Il y a deux étapes. La première étape, celle sur laquelle nous avons travaillé, c'est de travailler ici en interne en France pour mieux répartir les médicaments. Vous savez qu'on le fait aussi avec les patients en fonction des pressions sur les réanimations. On peut aussi le faire sur les médicaments. Là où il y en a moins besoin, on peut rapatrier les médicaments là où il y en a plus besoin. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en gestion. Et parallèlement, nous avons lancé, donc là au niveau de l'État, bien entendu, une exploration des possibilités à travers le monde, très largement mondialisée, pas simplement en Europe. Nous sommes en train de regarder dans le monde là où il y a des productions. La difficulté, bien entendu, c'est que la capacité de production mondiale de ces médicaments, qui ne sont pas des médicaments de très grande production, vous voyez, on est quand même sur des produits qui sont quand même très spécialisés. La question, c'est quelle est la capacité mondiale à produire ces médicaments dans des temps courts. C'est ce que nous sommes en train de regarder, et l'exploration que nous avons mis en route couvre la totalité des pays du monde, et c'est ça que nous faisons actuellement avec l'État.
Avec un souci aussi, je le précise, sur les réactifs aux tests qui manquent là aussi cruellement. J'ai une question qui nous est arrivée sur le hashtag Radio Ouverte, Dominique Martin, c'est Marie qui nous écrit. Est-ce qu'on peut imaginer que certains médicaments pourraient exceptionnellement devenir des génériques malgré une autorisation de mise sur le marché inférieure à 10 ans, c'est-à-dire tomber dans le domaine public plutôt que prévu ?
Alors, il y a des procédures juridiques, disons, unilatérales de la part de l'État, hein, ça serait l'équivalent d'une réquisition pour que ça parle aux gens, hein, on peut le faire sur certains produits, mais faudrait-il encore que ces produits soient fabriqués sur le territoire national ? Et la production de ces produits est très largement en dehors du territoire français, notamment sur le territoire européen. Et donc, du coup, ça a moyennement de sens. Mais ça peut se faire. Hein. On peut prendre une décision qui relève du niveau de l'État, qui consiste entre guillemets, à nationaliser un produit, donc à le rendre, comme vous dites, comme une sorte de générique, mais sur lequel on aurait des capacités d'intervention. Mais ça, faut-il encore qu'il y ait une production, que cette production puisse se faire sur le plan opérationnel. Donc c'est ça que nous cherchons. Ce que nous cherchons aujourd'hui, ce sont des sources de production à travers le monde. Et il y en a, hein, nous allons en trouver, il y en a, il faut les chercher et procéder à des achats importants, mais au plus haut niveau.
Je comprends ce que vous dites, c'est possible, mais vous soulevez aussi la question de la production de ces médicaments, cette question qu'on a soulevée avec des laboratoires pharmaceutiques qui réfléchissent en ce moment à des relocalisations, si ce n'est en France, au moins en Europe. Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, je le dis en entier pour une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Il est 7h48. Europe 1. Vous restez bien avec nous sur Europe 1, la culture, c'est Périscope avec Jean-Philippe Ballas, l'édito, l'opinion de Nicolas Bétou également. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard.
Il est 7h50 sur Europe 1 et comme tous les matins, vous les retrouvez. Nicolas Bétou, bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Votre édito, l'opinion de Nicolas Bétou dans un tout petit instant. Mais tout de suite, la culture avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est Périscope, la culture à 360 degrés. Et c'est une jeune artiste de 23 ans ce matin avec vous. Révélation album aux dernières victoires de la musique. Elle s'appelle Pomme. Vous l'aimez beaucoup Jean-Philippe. Et elle donnera demain soir un concert en confinement sur son compte Instagram.
Oui, Pomme qui se trouve actuellement en famille, dans une maison. Elle dit qu'elle est privilégiée, qu'elle a beaucoup de chance. Elle pense à nos héros du quotidien et elle profite de ce confinement pour se reformater un peu.
Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout.
Bonjour Pomme.
Bonjour.
Je crois qu'en ce moment, vous vous obligez à prendre le temps, c'est ça ?
Moi, ma manière de donner du sens au confinement et à cette pandémie qui fait beaucoup de dégâts par ailleurs et qui est assez angoissante pour tout le monde, c'est de me dire que c'est aussi l'opportunité de faire une pause et justement de pas forcément être dans une dynamique de productivité, même si c'est super difficile, parce que moi, je suis la première à être assez angoissée de produire, de faire, et je me suis rendu compte que il y a plein de choses que je fais jamais d'habitude et qui me font beaucoup de bien, comme lire des livres, faire de la méditation. C'est des choses qui font pas du tout ou très peu partie de mon quotidien d'habitude quand je suis à Paris et qui là sont la majorité de ma journée en fait.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier.
Moi, je me remets beaucoup en question, je réfléchis beaucoup mon utilité, la place que j'occupe, est-ce que je suis au bon endroit et tout. En ce moment, on n'est pas essentiel au bon fonctionnement de la nation, donc voilà, on peut juste utiliser peut-être le fait qu'on soit médiatisé en tant qu'artiste pour pouvoir aider. Penser aux gens qui sont en première ligne de cette crise et qui n'ont pas la chance et le privilège d'être chez eux. Donc dans quelques mois, on sera content de se retrouver et d'aller à des concerts et que ce sera super. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet, quoi, j'ai l'impression.
Viendras-tu te reposer sur mon épaule ?
Alors Pomme, vous allez donner demain un concert en ligne. Il y a beaucoup d'artistes qui le font déjà. Alors vous, d'ordinaire, je crois que vous n'êtes pas très présente sur les réseaux sociaux.
Je fais pas d'apéro sur de Skypéro, je sais pas quoi. Moi, je suis pas du tout dans le délire de l'apéro sur Skype parce que je fais jamais d'apéro dans la vraie vie. Donc j'avais pas envie de me jeter corps et âme dans les réseaux sociaux. Après, c'est un peu paradoxal parce que c'est aussi un moyen de rester en lien avec les gens et c'est aussi un truc qui sauve vachement. Et c'est vrai que si on était dans une autre époque où on n'avait pas ça, je pense que ça se passerait pas aussi bien, dans le sens où il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, je prends plus de plaisir à regarder les réseaux sociaux en ce moment que d'habitude, avec des recommandations culturelles et puis de la bienveillance.
Justement, vous parlez de recommandations, donnez-nous un coup de cœur.
Alors je regarde cette série incroyable sur Netflix sur les fauves, là, le royaume des fauves, les Américains qui élèvent des tigres et des fauves dans des parcs immenses, c'est autorisé là-bas et c'est des espèces de guerres entre parcs, enfin c'est totalement absurde, mais c'est incroyable et passionnant et c'est impossible de pas aller jusqu'au bout du truc. Donc là, il me reste genre 2 épisodes que je me radine un peu, voilà. Et j'ai lu plein d'autres trucs, mais ça fait beaucoup après. La liste est longue.
Merci Pomme.
Merci.
Concert en direct à suivre demain soir à 20h sur le compte Instagram de Pomme. C'était Pomme. Merci Jean-Philippe Ballas. L'opinion de Nicolas Bétou à 7h54 lors de sa visite à une entreprise de fabrication de masques en Anjou. Emmanuel Macron a exhorté le pays à retrouver, Nicolas, sa souveraineté pleine et entière en matière économique.
Oui, en l'occurrence, il évoquait la production de masques, ces fameux masques FFP2 et les autres que nous sommes obligés d'importer de Chine par centaines et centaines de millions. Le chef de l'État parlait d'ailleurs exactement comme le faisaient ses prédécesseurs en 1914, en 1939, lorsqu'il fallait armer ou plutôt réarmer le pays alors qu'il partait à la guerre assez démuni.
À chaque fois, il s'agissait d'entrer en économie de guerre.
Exactement. Alors, être en économie de guerre, c'est se mobiliser sur tous les fronts à la fois pour soutenir ceux qui se battent. Comme le dit Emmanuel Macron, c'est la deuxième ligne qui se mobilise pour la première ligne, celle des soignants. Être en économie de guerre, c'est être mobile et adaptable dans tous les domaines, c'est être capable de financer la guerre en oubliant les règles budgétaires, comme le recommande par exemple Esther Duflo, cette économiste française qui a reçu cette année le prix Nobel d'économie. En ce moment, dit-elle, il faut emprunter massivement et stimuler l'économie autant que possible. Bon, à vrai dire, elle avait déjà été entendue par la France qui, en matière de dépenses publiques, a une assez bonne expérience.
Mais l'économie de guerre, ça concerne aussi les entreprises ?
Oui, comme en 14, comme en 40, quand on demandait aux constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, Citroën, de construire des camionnettes, des camions et puis des chars. Eh bien, aujourd'hui, on les concentre sur les respirateurs. L'industrie textile, à l'époque, se reconvertissait pour fournir des bandages. Eh bien, on lui demande aujourd'hui de travailler sur les masques. C'est un peu comme si la guerre n'était qu'un éternel recommencement.
Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, explique, je le cite, que le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant.
Eh oui, je l'ai entendu, je l'ai lu comme tous ceux qui expliquent que rien ne sera plus comme avant. Bon, c'est un peu une formule fourre-tout, tout le monde s'en sert pour prêcher son propre programme contre la mondialisation, contre le libéralisme, contre la Chine, contre les États-Unis, contre tout en fait. Et puis, si c'est pour expliquer qu'il y aura des changements, des adaptations dans nos modes de production, dans nos échanges, ben c'est une évidence. Mais affirmer, comme on l'entend si souvent, que tout sera différent, pardon, mais fake news.
Donc lorsqu'Emmanuel Macron affirme que nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne, vous ne le suivez pas ?
Écoutez, s'il parle des domaines ou des produits stratégiques, ceux qui mettent en jeu notre sécurité nationale ou la sécurité individuelle de chacun, pourquoi pas ? Que toute notre production de médicaments, par exemple, dépende de zones hors d'Europe, on vient d'en parler, ça n'est plus possible, eh bien, pensez que cette reconquête de la souveraineté sera celle de la France dans son ensemble, c'est à la fois impossible et c'est surtout inutile. La division internationale du travail, c'est une nécessité, elle survivra, il n'y a aucun doute. Vous savez, il y a une bonne règle militaire, avant, pendant et après la guerre, il faut bien choisir ses combats.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito, c'est tous les matins dans la matinale d'Europe 1, la radio ouverte, juste avant le journal de 8h, 7h57.
Europe 1.
Et justement, le journal de 8h qui arrive avant de retrouver le gouverneur de la Banque de France à qui vous adressez vos questions, les entreprises, notamment le financement de l'activité, mais aussi des questions très concrètes comme la contamination par l'argent liquide ou les pénuries dans les distributeurs de billets. 3921, le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite sur Europe 1.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.